présentation. La présentation que je vais vous faire là maintenant, c'est un peu de voir, un peu faire un tour à la fois des technos actuels qu'on va voir sur les écrans, comment fonctionnent les écrans que vous avez sur vous. Vous avez certainement tous un téléphone portable, certainement un lecteur MP3. Ça peut être intéressant de regarder comment ça fonctionne, quels sont les outils technologiques qu'on utilise, puis après, pour aller plus loin. Qu'est-ce qu'on va essayer de vous vendre après? Qu'est-ce qu'on va essayer de vous faire envie après? Et quelle est la recherche qui est derrière? Pourquoi on essaye d'aller plus loin? Alors pour ça, je me suis basé sur un film qui est Minority Report. Alors qui est un film qui a des images qui n'est pas forcément au niveau sociétal, peut poser beaucoup de questions, mais c'est surtout, moi ce qui m'intéressait, c'est qu'il y a des écrans dessus qu'on utilise, qui sont des écrans qui ont des formes particulières. Déjà, c'est des écrans qui ne sont pas plats, qui ne sont pas plombs, qui ont des formes différentes. Après, il y a des interfaces, ils sont transparents, ces écrans-là. Quand on ne les utilise pas, on voit à travers. Après, on peut mettre les mains dessus et les contrôler. Bon, quand Minority Report est sorti, il n'y avait pas l'iPhone, on ne pouvait pas taper dessus, etc., modifier, etc. Mais il y a toutes ces interfaces-là, tous ces contrôles-là, et l'idée, c'est de se dire, est-ce que ces écrans qui étaient dans Minority Report, on a revu les mêmes un peu ou un peu plus poussés dans Avatar, dernièrement, où il y a aussi pas mal d'écrans, les gens prennent des... Ça marche pas si je fais ça. Prennent des écrans comme ça, les tordent, etc. Est-ce que ces écrans-là, vous les aurez dans les mains dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, peut-être pour certains 15 ans, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on aura ces écrans-là qui nous permettront de voir des choses comme ça, de voir ces structures-là et qu'est-ce que ça apportera aussi les avoir? C'est bien beau, est-ce que ça sert à quelque chose? Ça, c'est peut-être pas un vrai problème. En tout cas, est-ce que vous les achèterez? Ça, c'est un vrai problème pour, dans le monde dans lequel on fonctionne. Alors, pour ça, ce que je vais faire, je vais commencer par un soupçon de physique. Désolé, j'ai besoin de vous donner, c'est deux transparents, mais j'ai besoin de vous donner deux, trois petites informations sur la lumière qu'on va utiliser. Parce qu'un écran, c'est quelque chose qui va contrôler la lumière. Soit la lumière qui vient de l'extérieur, que vous affichez, soit de la lumière qui vient de l'intérieur. Moi, derrière mon écran de PC là, j'ai une lampe, j'ai ce qu'on appelle un rétroéclairage, j'ai des néons qui me renvoient la lumière. Donc comment ça fonctionne cette lumière-là et comment je vais pouvoir la contrôler, la laisser passer ou la stopper. Après, on verra un peu les technologies actuelles, le LCD, le cristal liquide, c'est un truc qui est bizarre, c'est un cristal et c'est liquide. Donc ça, déjà, c'est un peu particulier, c'est un solide, mais c'est un liquide. Donc c'est un matériau particulier, et ça c'est 80... Je pense que dans la salle, il y a peut-être une personne, deux personnes qui auraient un écran qui ne soit pas de ce type-là sur leur téléphone ou ailleurs. Parce qu'il n'y a que ceux qui ont des Samsung Wave. Bon. Qui ont autre chose que du cristal liquide, qui ont des OLED. Parce que ça vient juste de sortir, et on revient dessus. Après, on verra les OLED. OLED, ça veut dire Organic Light Emitting Diode, diode électroluminescente organique. C'est-à-dire organique, ça veut dire comme nous, comme la chimie contre laquelle on est fait, un peu comme les lucioles, fait avec des carbones, fait avec de l'oxygène. On verra le papier électronique, est-ce qu'on pourrait pas faire un papier qui se réimprime, s'efface? Le journal est quelque chose qui est très facile à lire, qui est très bonne qualité. Puis après, on verra justement quels sont les écrans qu'on va faire dans le futur, et comment ils marchent et pourquoi on veut faire ces écrans-là. Alors, je commence par le plus rébarbatif, si je puis dire. Qu'est-ce que la lumière? Alors, la lumière, c'est les lampes que vous voyez là. Ce que vous recevez, vous êtes sensible à ça, si vos yeux sont sensibles à ça. Il y a quelques notions qui vont m'être nécessaires. Première notion, c'est une tension électrique, un champ électrique qui se propage. C'est un champ électrique qui va se diffuser comme ça et que vous allez recevoir. La lumière, elle est émise à un instant et après vous la recevez. C'est quelque chose qui se propage. Vous la recevez tout de suite parce qu'elle se propage à des vitesses très grandes. Alors vous connaissez peut-être le chiffre, c'est 300 000 km par seconde. Une autre image, quand vous recevez la lumière, quand vous voyez la lumière de la Lune est partie il y a une seconde et demie à peu près. Quand vous regardez le soleil, ça fait 8 minutes que la lumière est partie du soleil. Vous voyez l'allumage du soleil 8 minutes avant. Quand vous regardez une étoile, la plus proche, ça fait 4 ans que la lumière est partie. Si vous êtes, alors pas dans Agen, pas ici, mais dans un endroit où il y a vraiment très peu de lumière, vous pouvez voir une autre galaxie, un autre univers-île dans lequel on est. Et elle, ça a été envoyé il y a Elle est visible à l'œil nu, c'est Andromède. Ça a été envoyé il y a 2,2 millions d'années-lumière, donc 2,2 millions d'années. On n'était pas là, c'était Lucie à peu près, une espèce d'intermédiaire entre nous et les singes qui étaient là. Donc la lumière, c'est une onde qui se propage. Deuxième chose, c'est une onde, c'est quelque chose dont on peut contrôler la façon, la direction dans laquelle elle se propage. Vous avez sur vous une antenne, votre téléphone. Votre téléphone, il capte une onde électromagnétique. Il capte la même chose que ce que captent vos yeux, simplement ça ne se propage pas à la même vitesse. Vos yeux sont adaptés à capter quelque chose, ce qu'on voit le soleil. Votre téléphone est adapté à capter une autre longueur d'onde, une autre grandeur. C'est les mêmes grandeurs, c'est les mêmes grandeurs physiques, mais à d'autres fréquences. On pourrait voir ce que transmet tout à fait un téléphone si on était adapté à ça, ou écouter, écouter dans votre téléphone ce que transmet le soleil. Alors, le fait que ça soit polarisé, ça veut dire que ça va se propager dans une direction particulière, verticale, horizontale. Par exemple, si ça se dirige dans toutes les directions, comme une lumière ici, votre antenne, elle n'a pas de forme particulière. Une antenne de radio, c'est un câble, c'est une tige. Ça n'a pas de direction particulière. Une antenne de télé, c'est un râteau, c'est plat. Pourquoi ? Parce que l'onde qu'on vous envoie, l'image télé qu'on vous envoie, le support, est envoyée dans une direction plate. Si c'est un satellite, l'onde qu'on vous envoie, elle est envoyée dans une forme circulaire. C'est une espèce d'hélice qui se propage. Et votre antenne de satellite, elle est ronde. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement important. Pourquoi c'est important ? Ben parce que si on envoie une lumière dans une direction particulière, imaginez que vous envoyez, un flux à l'horizontale et que vous avez en face une barrière, une couche, avec des rainures, des trous uniquement verticaux. Ben, si la lumière arrive horizontalement, elle ne passe pas à travers les trous verticaux. Si la lumière arrive verticalement, elle passera à travers les trous verticaux. C'est ce qui va se passer dans les écrans qu'on va utiliser. C'est comme ça qu'on va bloquer la lumière. Donc ça, c'est cette notion un peu de polarisation qui est peut-être une des notions les plus difficiles à comprendre. Deuxième notion, j'en ai déjà parlé, c'est cette notion de couleur. Il y a deux choses qu'il faut savoir. La couleur, c'est simplement à quelle vitesse se propage la lumière. En fait, quand vous, des ondes radio, des rayons X, quand on vous fait une radio, quand vous allez chez le médecin, la lumière, tout ça, le rayonnement nucléaire, tout ça, c'est le même type de physique, c'est le même type de signal qu'on transmet, de champ, de courant, de tension électrique qu'on transmet, simplement c'est à des vitesses différentes. Alors nous, on est sensible qu'à un certain type de ces ondes. Alors pourquoi on est sensible à ça ? C'est tout bête, si je peux me permettre l'expression, c'est que le soleil émet principalement dans ces longueurs d'onde-là, et que nous, on est sensible au soleil. Nos yeux sont faits pour fonctionner éclairés par une étoile particulière, qui est le soleil. Si jamais, dans un avenir lointain, on va vers d'autres étoiles, elles émettent d'autres couleurs, et peut-être des couleurs auxquelles on ne va pas être sensible. Mais il y a des couleurs où on n'est pas sensible. La chaleur, c'est de l'infrarouge, c'est de la couleur plus rouge que le rouge. On n'en est pas sensible avec les yeux, par contre on est sensible avec le corps, on chauffe. C'est aussi de la couleur. Dernière chose, et j'arrêterai là-dessus, c'est comment fonctionne notre œil, parce que c'est comme ça qu'on va transmettre l'information lumineuse. Notre œil, en fait, on ne capte pas la couleur directement. On n'a pas un capteur qui va capter le rouge, le violet, le rouge, le mauve, l'orange, le jaune, etc. En fait, on a dans vos yeux, vous avez trois capteurs, multipliés à l'infini, de manière nombreuse, mais vous avez trois types de capteurs. Un qui capte le rouge, un qui capte le vert, et un qui capte le bleu. Donc, en fait, pour faire toutes les couleurs, il suffit d'envoyer trois images, une rouge, une verte, une bleue, et c'est votre œil qui fait la superposition. C'est un peu ce que j'ai représenté ici. Là, vous avez du vert, mais si je superpose du vert avec du bleu, je vais obtenir du bleu ciel, je peux obtenir du jaune, je peux faire toutes les couleurs, et si je superpose par exemple les trois couleurs, je vais obtenir du blanc. Pour obtenir du blanc, il suffit d'envoyer du rouge, du vert et du bleu à la fois, et la somme fera du blanc. C'est comme ça que fonctionne la lumière. Bien sûr, pour faire du noir, il suffit d'en envoyer du tout. C'est tout simple. Si vous n'envoyez rien, vous faites du noir. Mais en fait, on envoie soit du rouge, soit du vert, soit du bleu, et on les envoie les uns après les autres ou en même temps, et c'est votre œil qui va recréer le jaune, le violet, le rose, toutes les couleurs. C'est ce qu'on appelle de la synthèse, pour utiliser un grand mot, additive. Et c'est ce qui est utilisé en vidéo. En vidéo, on vous envoie les trois couleurs, RVB, rouge, vert, bleu, on continue, et c'est votre œil qui fait tout ça. Alors maintenant, partant de là, je vais passer donc à cette techno qu'on appelle les cristaux liquides. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la techno qui est la techno majeure actuellement des écrans plats. C'est 98% du marché, 80, un peu moins, 94% du marché à l'heure actuelle. C'est-à-dire pratiquement tous les écrans que vous avez sur vous, sauf une qui s'est manifestée tout à l'heure, sont des écrans LCD, les télés, le portable que j'ai amené, mon iPhone, c'est des écrans à cristaux liquides. Donc c'est comment fonctionnent ces écrans-là. Et ça, c'est vraiment la technologie d'aujourd'hui. Ça a été inventé... Alors, les cristaux liquides, c'est très ancien. Hein. Ça a été inventé au milieu du... Enfin, découvert, pardon, au milieu du 19e siècle. Mais c'est devenu utilisable pour les écrans qu'il y a une trentaine d'années. Et de manière pratique, il y a... Allez, 15 ans au maximum. Avant, c'était vraiment quelque chose de très particulier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cristal liquide ? Ben, c'est quelque chose qui est entre le solide et le liquide. Un solide, alors, dans les cristaux liquides, on va retrouver ce qu'on va appeler des molécules, c'est en fait des petites structures qu'on pourrait voir comme des graineries microscopiques, hein, de taille, c'est ce que je représente ici, ça fait la taille, alors c'est quelques centaines de nanomètres, ça ne va pas vous dire grand-chose. Un cheveu, le diamètre d'un cheveu, c'est 80 microns, 80 millionièmes de mètres. OK ? La molécule, ce que je vous représente ici, ça va faire 1000 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Donc c'est complètement invisible à l'œil nu. Hein. Mais c'est les tailles, et tout à l'heure, quand on a présenté le laboratoire, on a parlé de laboratoire de physique d'interface des couches minces, c'est des tailles de cet ordre de grandeur-là avec lequel on travaille. C'est-à-dire 1100 fois à 1000 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Et c'est là-dessus, nous, qu'on travaille sans arrêt, qu'on essaie de contrôler ces couches, de les maîtriser. Alors, si je reviens, un solide, c'est quelque chose qui est complètement rigide. C'est quelque chose qui ne bouge pas. Ou, enfin, j'exagère un peu, hein, y a la chaleur, mais il y a tous les atomes, tous les éléments, toutes les molécules qui vont dans le solide sont fixes dans une position donnée, dans une direction donnée, et ne bougent pas. Un liquide, pardon, c'est quelque chose, au contraire, où, qui est complètement désordonné, où tout ce qui est dedans bouge sans arrêt, va taper contre les parois. Alors, les liquides, vous en connaissez certains, je suis sûr que vous en ignorez d'autres. L'eau, vous connaissez, la bière, certainement aussi, des choses comme ça. Le verre. Le verre, c'est un liquide. Alors, il y a une vingtaine d'années, des gens avaient fait le calcul que sur les vitraux des cathédrales, qui avaient été faits il y a à peu près 1000 ans, on aurait pu mesurer la différence. Ils auraient coulé très 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 lentement, et ils auraient dû devenir plus fins en haut et plus épais en bas. Alors, ils ont fait des mesures et ils n'ont pas trouvé ça. En fait, ils sont gourés d'un facteur 10. En fait, c'est pas au bout de 1000 ans que ça sera mesurable, c'est au bout de 10 000 ans. Bon, il y a peu de chances qu'on ait des vitraux qui soient encore intacts dans 9000 ans maintenant, mais le verre est un matériau qui est liquide, qui coule. Simplement, il coule à des temps, des vitesses infinies, infiniment lentes par rapport à ce qu'on perçoit, par rapport à ce qu'on ressent au niveau de la vie humaine. Alors, le cristal liquide, ben, c'est un matériau qui est entre les deux. C'est à la fois liquide, c'est-à-dire que les molécules bougent, tout bouge à l'intérieur, mais ces molécules restent ordonnées dans une direction les unes par rapport aux autres. Elles peuvent pas, elles sont dans une position, elles ne peuvent pas s'orienter n'importe comment. Alors, si vous tapez sur un écran, alors pas sur votre téléphone, l'écran est trop rigide, faites-le pas trop sur les télés si vous avez les ordinateurs, parce que ça les abîme, mais si je tape sur un écran, ben vous voyez comme si vous jetez une pierre dans l'eau. C'est un liquide. Alors, je peux le simuler là-dessus, si je fais ça. Alors, c'est une simulation, hein, mais je peux simuler la création comme si je créais quelque chose de liquide. Et l'écran en tant que tel, dedans, il y a des liquides et ça fait ce phénomène-là. C'est quelque chose qui est vraiment liquide. Attention, ce que je vous ai montré ici, ce n'est qu'une simulation. Si je tape sur mon écran, vous ne le voyez pas, ce n'est pas dans vidéoprojection. Ça simule cet effet-là. Mais l'écran en tant que tel est liquide. Si jamais je casse l'écran, si vous cassez votre écran, vous verrez couler ce qu'il y a à l'intérieur de l'écran. C'est des cristaux liquides. Faites-le pas, c'est pas réparable. Alors, maintenant, comment avec ça, je vais faire un interrupteur? Moi, mon objectif, pour faire un écran, c'est quoi? C'est une structure de plein de pixels, de plein de petits points, et ces points-là, je veux qu'ils soient allumés ou éteints, et que je puisse contrôler si ce point est allumé ou éteint. C'est ce qu'on appelle un pixel. Je ne sais pas sur les téléphones que vous avez, sur les télés, on vous vend sans arrêt des full, ce qu'on appelle du full HD. Ça veut dire qu'il y a 1920 pixels par ligne et 1080 pixels, à peu près 2 millions de pixels au total, 1080 lignes sur 1920, ce qui fait à peu près 2 millions de pixels au total. Et ce que je veux savoir, c'est comment mon point, je vais l'allumer ou je vais l'éteindre. Alors pour ça, on va utiliser des propriétés physiques de nos cristaux liquides. Ces cristaux liquides-là, ils sont capables d'orienter la lumière. C'est-à-dire la lumière qui les traverse, elle va suivre la largeur de ces grains de riz. Donc si je les positionne en mettant des rainures dans ma structure, donc en fait, qu'est-ce que je fais? J'ai deux plaques de verre. Sur mes plaques de verre, je vais mettre un bout du plastique que je dépose. Ce plastique-là, je vais le rayer. Alors comment on fait ça? On le fait, nous, en TP. On prend un morceau de velours et je frotte. Frottant le plastique avec un morceau de velours, je fais des micro-sillons, des rainures qui sont de taille microscopique. Naturellement, les molécules, les matériaux, ces petits grains de riz, vont se mettre orientés dans les trous que représentent ces molécules-là. Maintenant, imaginez, avec le micro, c'est pas pratique d'avoir les deux mains, mais bon, imaginez que je mette des rainures dans ce sens-là, en bas, et dans ce sens-là, en haut. Ben, les molécules du bas vont être orientées dans le sens des rainures. Les molécules du haut vont être orientées dans le sens perpendiculaire des rainures, et entre les deux, ça va créer ce qu'on appelle une hélice. C'est-à-dire que les molécules vont s'orienter les unes par rapport aux autres pour créer une hélice. Alors, c'est un nom que peut-être vous avez vu marqué parfois sur certains écrans, ce qu'on appelle le twist nématique. Twist, ça veut dire hélice, tourner, et nématique, c'est le nom de ces grains de riz, de ces molécules-là. Maintenant, qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, si j'envoie ma lumière dans le sens de mes hélices, ma lumière va rentrer comme ça, va tourner et va ressortir dans le sens des hélices du bas. Pour le moment, ça ne sert à rien. Ça laisse passer la lumière. Maintenant, on va un peu plus loin. Alors, on va rajouter deux éléments. Ce qu'on appelait les polariseurs tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui laissent la lumière passer dans une direction particulière. On va mettre un polariseur au début, ici, vertical, avec des rainures verticales. De l'autre côté, horizontal, avec des rainures horizontales. Donc, la lumière arrive, passe dans les premières fentes, qui sont verticales, tourne et ressort dans les deuxièmes fentes, qui sont horizontales. Je laisse passer la lumière. Je rajoute encore un élément. Alors, je rajoute un élément que peut-être vous ne connaissez pas bien, qui est... Alors, un conducteur, ça peut-être vous connaissez, quelque chose, un fil électrique, quelque chose qui conduit. En général, c'est des métaux. On sait faire des métaux transparents. Ce qu'on appelle, par exemple, alors l'oxyde d'indium et de titane. Titane, c'est un matériau que peut-être vous connaissez. L'indium, c'est un autre matériau aussi, c'est une terre rare. Et ces matériaux-là sont et transparents et conduisent le courant électrique. Donc si maintenant, je mets une tension des deux côtés, là, par ces transparents, ces conducteurs transparents, mes molécules vont suivre le champ électrique, vont tourner, et la lumière va être bloquée. Donc en fait, Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que fait le cristal liquide? C'est quelque chose qu'on peut voir comme un store. Le cristal liquide, ça laisse passer la lumière si je ne mets pas de tension, ou ça bloque la lumière si je mets une tension. Mais ça n'émet pas de lumière. Un écran, un cristal liquide en tant que tel, ça n'émet aucune lumière. C'est un interrupteur de lumière. Je ne mets pas de tension, la lumière passe, votre point est lumineux, s'il y a de la lumière qui peut la traverser. Je mets une tension, votre point s'éteint, devient noir. Alors ça, c'est vraiment la base de ces pixels-là, comment je fais la lumière. Alors, comment je fais mon écran complètement? Ben, il faut ces cristaux liquides qui sont là, que j'ai mis ici, là, ces petits bâtonnets. Devant, moi, je veux faire un écran qui n'est pas blanc ou noir. Je veux faire un écran qui est coloré, qui fait toutes les couleurs. On a vu tout à l'heure que votre œil, il marche en rouge, vert, bleu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on met devant, quand je fais ce qu'on appelle un pixel, hein, quand je vous ai dit tout à l'heure, le Full HD, c'est 1920 par 1080, 2 millions de pixels, en fait, c'est ça fois 3. Parce qu'à chaque fois, il y a un pixel rouge, vert et bleu. Et pour faire ça, comment on fait ça? On émet de la lumière blanche et on met devant un filtre coloré. Un peu, c'est très très proche, ces filtres colorés, des emballages de bonbons en cristal, des emballages de bonbons en plastique transparent, rouge, vert ou bleu. Donc on met, ça c'est une vision d'un pixel où il y a une partie rouge, une partie verte, une partie bleue. Donc un écran complet, c'est une source de lumière qui est derrière. La lumière traverse un certain nombre d'éléments. Les cristaux liquides qui vont donc permettre de dire la lumière, je la laisse passer, je veux un point qui soit lumineux. Ou je la bloque, je veux un point qui soit noir. Ou je la bloque en partie, je veux un point qui soit gris. Et puis devant, mes filtres colorés. Alors, problème, il y en a plusieurs. Un, comment il me faut une source de lumière. Mon cristal liquide ne fait que laisser passer la lumière. Alors, comme source de lumière, il y en a deux possibles, on va dire à la louche. Premièrement, le soleil. Vous êtes en extérieur. Le soleil est une source de lumière, et c'est une source de lumière extrêmement forte. Infiniment plus forte que ce qu'on saura faire par des sources, des lampes, etc. Je ne sais pas si vous avez essayé de regarder une télé ou de regarder un PC à l'extérieur. On ne voit pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on appelle, en fait, on met un miroir derrière l'écran. Mon écran, j'ai la lumière du soleil qui passe à travers, pardon. Derrière, j'ai mis un miroir et la lumière ressort. Ça ne marche très bien qu'à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle les écrans, alors c'est un mot moche, réflectif. Après, il y a les écrans qui sont faits pour marcher à l'intérieur. Parce que les écrans réflectifs qui renvoient la lumière par un miroir, si vous l'utilisez dans le noir, vous ne renvoyez rien, donc vous ne voyez rien. Donc les écrans à l'intérieur, il faut une source de lumière supplémentaire. Typiquement, les télés, les ordinateurs portables. Là, qu'est-ce qu'on a? Derrière mon écran ici, j'ai une source de lumière, j'ai une lampe blanche qui va émettre la lumière. La lumière passe à travers mon cristal liquide qui laisse passer ou qui bloque cette lumière-là, passe à travers mes filtres colorés, et c'est ce qu'on appelle un écran transmissif. Alors, ça marche très bien à l'intérieur, ça ne marche pas à l'extérieur. Il y a un problème, les téléphones portables. Les téléphones portables, on veut pouvoir l'utiliser à l'extérieur. On appelle, on veut voir, etc., les numéros, voir qui appelle et tout ça. On veut aussi pouvoir l'utiliser à l'intérieur, dans le noir, chez soi, pourquoi pas. Donc, pour ça, il faut qu'on fasse les deux. Votre téléphone portable, il y a la moitié du pixel sur lequel on a mis un miroir, l'autre moitié du pixel sur lequel on laisse passer la lumière qui vient par derrière. Donc, ça marche très bien, ça fonctionne bien. Mais c'est un énorme défaut. C'est un défaut d'énergie. Le cristal liquide, tel que je vous l'ai dit, qu'est-ce que c'est qu'un point noir dans le cristal liquide? C'est un point où j'émets de la lumière blanche et je la bloque. Donc au niveau énergie, c'est une catastrophe. Ça consomme énormément. On le voit bien, on est sans arrêt en train d'être obligé de recharger nos téléphones, surtout depuis qu'ils sont en écran couleur. J'ai un iPhone, si je ne le recharge pas tous les jours, il ne tient pas deux jours avec l'utilisation que j'en ai. Donc il faut sans arrêt le recharger. Donc ça, c'est un des gros défauts de ce type d'écran-là. Des écrans à cristaux liquides, on ne peut pas les éteindre. Alors, juste un point, cette technologie-là que vous utilisez pour les écrans, s'il vous plaît, c'est une technologie d'écran, ce qu'on appelle électronique grande surface. Alors, moi, je préfère grand substrat, parce que grande surface, c'est un autre sens. Pourquoi grande surface ? Ben, ce qu'on va utiliser là, en fait, quand on vous fait vos écrans, sur vos écrans de téléphone, de télé, etc., on part de plaques de verre qui font jusqu'à 6 mètres carrés à l'heure actuelle. Là, je vous ai mis des structures qui permettent de faire des écrans dont la taille, c'est 2,40 m par 2,80 m, donc quelque chose qui est extrêmement grand. Voilà, donc ça, c'était pour les écrans à cristaux liquides. Je vais passer maintenant à deuxième famille d'écrans, celle qui est en train d'émerger. Comme j'ai dit tout à l'heure, on retrouve ces écrans maintenant sur les téléphones portables depuis 6 mois, 8 mois en Europe, un peu plus, un an et demi en Asie. C'est des écrans à diodes électroluminescentes, donc des éléments qui vont émettre la lumière, qui sont des points lumineux, un peu comme ce qu'on retrouve sur les feux rouges, des points lumineux. Simplement, on fait ça de manière avec des éléments qui sont à base de carbone et d'oxygène, donc organiques. En fait, on copie un peu ce que fait la nature, alors ça c'est factice, hein, mais ce que fait ce qu'on appelle les lucioles. On reproduit quelque part la capacité qu'a la nature, d'avoir la nature de produire de la lumière à très forte énergie. Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est le rendement, c'est la consommation d'énergie, toujours. Si vous prenez une lampe classique, une vieille lampe à filament, là, celle qui vont disparaître dans un an et demi maintenant, ces lampes-là, vous mettez de l'énergie, il y a 5% d'énergie qui sert à faire de la lumière, 95% d'énergie qui sert à faire de la chaleur. Donc c'est des lampes qui ont un très mauvais rendement. Les néons qu'on a ici, c'est à peu près 20-25% de l'énergie qui sert à faire de la lumière, le reste part en chaleur. Avec les systèmes OLED, potentiellement, on devrait pouvoir atteindre 80%. Actuellement, on est plutôt à 50%. Alors, ça aura quelques défauts. Ça fera des lampes qui sont froides, ça ne chauffera plus la pièce. Ça peut être gênant. Ça aura d'autres défauts, ça fera des zones, des couches lumineuses, pas des points lumineux. Et ça sera difficile à supporter. Donc, qu'est-ce que c'est que ces choses-là ? Ben, c'est des matériaux, c'est des structures très fines dans lesquelles je mets une tension électrique, je mets au milieu des matériaux, des plastiques. Ce sont des plastiques. Alors, la couche, les épaisseurs ici, c'est 100 nanomètres. Mon point lumineux, il a une épaisseur qui est 1 millième du diamètre de vos cheveux. Donc, une finesse infime. Et avec ça, je suis capable d'émettre, en fonction d'une tension très faible, un peu de lumière, de la lumière, et de faire des tas de couleurs différentes. De ça, on peut faire toutes les couleurs. Alors, c'est de la chimie. Il y en a qui s'amusent à faire ça. On peut faire toutes les couleurs possibles. Ça, c'est un schéma qui représente les couleurs. Cette forme-là bizarre, c'est les couleurs que voit l'œil. Le triangle en blanc, c'est les couleurs de votre télé. Votre télé n'émet pas toutes les couleurs que voit votre œil. Les couleurs, là, ce sont les différentes couleurs qu'on peut obtenir avec différents matériaux chimiques. Ben, avec ça, je fais un écran. Je fais un écran qui va être extrêmement fin. Premièrement, ce sont des écrans, je vais revenir dessus, qui peuvent avoir une finesse presque infime. On sait faire un écran actuellement qui aurait une taille d'un écran de mon PC et qui aurait l'épaisseur d'un cheveu. Techniquement, c'est faisable. Alors là, c'est un démonstrateur, c'est une télé qui est en démonstration, qui fait 1 mètre de diagonale. Et l'épaisseur de la télé, En fait, c'est pas l'écran. L'écran fait un cheveu d'épaisseur, mais après, il faut qu'il tienne l'écran, faut pas qu'il se casse la gueule. Donc, on a mis derrière un gros morceau de métal, des connectiques, et l'ensemble fait moins de 3 mm d'épaisseur. Donc, on fait des écrans qui ont une finesse infime avec ça. Deuxièmement, c'est quelque chose qui l'intérêt, c'est pas par rapport au cristaux liquides, c'est un intérêt d'énergie, d'économie d'énergie. Le cristal liquide, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est j'émets de la lumière partout, ici, avec ma lampe, et quand je mets un point noir, je bloque la lumière. Je l'empêche de passer, je mets un store devant. Là, je mets une tension, ça émet de la lumière, je ne mets pas de tension, ça n'émet pas de lumière. Donc je peux contrôler l'émission de lumière, et un point noir ne consomme pas, alors que sur un cristal liquide, un point noir consomme. Soit dit en passant, on ne vous l'a pas dit très fort, mais quand on s'est mis avant des écrans cristaux liquides, des écrans plats par rapport aux télé, les bonnes vieilles télé à tube cathodique, il y a deux choses qu'on ne vous a pas dit. Un, à taille égale, ça consomme deux fois plus. À même taille de diamètre, pas profondeur, mais taille de largeur, ça va consommer deux fois plus. Deux, la durée de vie est de moitié d'un écran plat. Alors, ce qu'on appelle la durée de vie, c'est un chiffre, on sait le chiffrer, c'est ce qu'on appelle le MTBF, Mean Time Between Failure, c'est-à-dire que vous avez, sur un écran plat, au bout de 5 ans, vous avez 50 chances sur 100 que votre écran soit mort. Une télé cathodique, c'était fait pour 10 ans. Alors, on sait faire des télés qui ont des durées de vie de 10 ans à écran plat. Mais commercialement, ça n'a pas d'intérêt. Deux chiffres. Un appareil photo, la durée de vie, combien de chances sur 100, enfin, au bout de combien de temps vous avez 50 chances sur 100 que votre appareil photo soit mort, à votre avis? 400 heures de fonctionnement. 400 heures de fonctionnement, ça représente 3 ans. Et au bout de 3 ans, les constructeurs estiment que vous supporterez de racheter un nouvel appareil photo ou un nouveau téléphone, c'est à peu près pareil. Parce que dans 3 ans, votre copain, votre copine en aura un mieux, les technos seront dépassés, etc. Rien à voir. Une tondeuse à gazon, la durée de vie, 60 heures de fonctionnement. Je ne parle pas de la tondeuse à gazon professionnelle, je parle de la tondeuse à gazon particulier lambda. C'est 60 heures. Au bout de 60 heures, votre tondeuse à gazon a une chance sur deux de tomber en panne. On sait faire mieux. Vous prenez un essuie-glace de bagnole, de voiture, pardon, c'est 15 000 km, 20 000 km. Un essuie-glace de train, c'est 2 millions de kilomètres. Et ça coûte pas 10 fois plus cher. Simplement, c'est un optimum entre le coût que vous allez l'acheter et le fait que vous supportez d'en acheter de nouveau. Vous êtes des consommateurs, il faut que vous consommiez, donc il ne faut pas qu'on fasse des produits trop costauds que vous ne rachèteriez pas. Ben pour les écrans, en passant aux écrans plats, on est passé de 10 ans à 5 ans. Alors moi j'en ai un, ça fait 7 ans. On va voir si ça tient. Alors, je reviens sur une chose qui est ça. Un autre intérêt des écrans des OLED, c'est que c'est des plastiques et c'est des liquides, c'est des encres. Donc on peut faire des écrans imprimés où je vais... Il y a le son, il y a l'image et il y a le son en plus, c'est bien. On peut faire des écrans auxquels je vais imprimer mon écran, j'ai imprimé mon électronique. Ce que je vous ai représenté ici, ça représente une jet d'encre. C'est une jet d'encre, c'est une imprimante jet d'encre, comme celle que vous devez avoir dans l'essai informatique ou autre, une petite, ou peut-être chez vous, qui est une petite imprimante, comme on a chez soi. Simplement, cette imprimante-là, elle est faite pour imprimer sur des énormes plaques de verre, qui font 2,40 m par 2,80 m, 2,40 m par 2,40 m, excusez-moi, avec des précisions de l'ordre de 15 microns, le cinquième de diamètre de vos cheveux, et pour faire les écrans. On peut potentiellement, avec cette électronique-là, imprimer des écrans, et peut-être à terme, sur une autre techno, peindre des cellules photovoltaïques sur les murs. Alors, juste un dernier point en passant, le petit bonhomme là qui est là, c'est ce qu'on appelle une salle blanche, une salle propre, il est dans un magnifique tenue baby gros pour éviter, c'est simplement éviter les poussières. vous perdez en moyenne entre 450 et 500 grammes de peau par an. Les morceaux de peau que vous perdez sont de taille supérieure aux dessins qu'on fait dans l'électronique. Donc si vous déposez des morceaux de peau sur les composants, sur les écrans qu'on est en train de faire, ben on va voir des morceaux de peau, on ne va pas voir les images qu'on veut voir. Ça serait un peu dommage. Donc pour éviter ça, les pellicules et tout ça, éviter que vous éternuez aussi, on est, quand on travaille, dans des atmosphères très contrôlées, des salles extrêmement propres, on appelle ça des salles blanches en français, et on est dans des magnifiques tenues complètes type baby grow. C'est assez désagréable hein, au niveau d'utilisation. Alors, je vous ai dit, tous ces écrans-là, on peut faire des écrans très fins, très lumineux, très économes en énergie, très rapides aussi. Par contre, pourquoi ça ne se développe pas ? Eh bien, c'est un peu le problème qu'on a à l'heure actuelle et on travaille dessus, c'est que ces écrans-là, ces matériaux-là, c'est des plastiques, mais c'est des plastiques qui s'oxydent, ils ne supportent pas l'air, ils ne supportent pas l'eau. Ils vieillissent très vite, ils vieillissent très mal. Alors, sur les téléphones, comme vos téléphones, vous l'utilisez 400-500 heures au maximum sur la durée de vie d'un téléphone, ça commence à être un peu moins vrai avec les smartphones, parce qu'on les allume de plus en plus, hein, iPhone ou autre, ben, c'est pas grave d'avoir une faible durée de vie. Pour une télé, c'est gênant. Une télé, c'est 50 000 heures de fonctionnement. Et à l'heure actuelle, avec ces composés organiques, ces éléments organiques-là, on ne sait pas faire plus de 15 000 heures pour le bleu. Pour les autres couleurs, on sait faire. Donc là, on travaille encore énormément sur améliorer la durée de vie de ces composants-là, améliorer la stabilité, etc. Dernière techno que je vous ai présentée, c'est le papier électronique. Alors, je reviens sur Minority Report. Alors, dans Minority Report, il y a un passage où... j'ai oublié son nom, lui, Tom Cruise. Rentre dans un métro, bon, outre qu'on détecte avec ses yeux qui il est, qu'on regarde son génome et qu'on va dire qu'il va commettre un crime dans le futur, donc c'est un futur criminel, donc l'image de la société n'est pas très belle. Ce qui se passe, c'est que la personne, on commence à le voir apparaître, est en train de lire un journal, et ce journal se modifie en temps réel, et on a une information qui apparaît, où on voit un visage, et qui dit bah, que la personne qui a détecté, qui est en face de lui, c'est un futur criminel, et qu'il faut l'arrêter, aider la police, etc., etc. Donc l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire l'équivalent du papier ? Le papier, c'est quelque chose qui marche très bien. On fait du papier depuis 5000 ans, 4000 ans à peu près. Ça marche toujours, et c'est quelque chose qui est très lumineux. Je ne sais pas si vous avez essayé de prendre une feuille de papier blanche et de la mettre à côté d'un écran d'ordinateur. Ben, vous lirez la netteté que vous aurez, le contraste sur la feuille de papier blanc est meilleur que tout ce qu'on sait faire à l'heure actuelle. Le papier, c'est un goût. Donc, c'est quelque chose qui est très bon au niveau luminance. Autre chose, une fois que je l'ai imprimé, ça ne consomme aucune énergie. C'est fixe, ça bouffe. L'inconvénient, il est où ? Ben, l'inconvénient, c'est qu'une fois que j'ai imprimé, je ne peux pas effacer. Et je ne peux pas le réutiliser. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un papier qu'on puisse réécrire à la demande en continu ? Effacer, réécrire, effacer, réécrire. Et ça, c'est ce qu'on appelle le papier électronique, l'électrophorétique, si je veux utiliser un gros mot. Et ça, on sait le faire de manière assez simpliste. Comment on fait ça ? Eh bien, il suffit... Comment on fait du noir et comment on fait du blanc ? On met sur une feuille qui est déjà blanche des pigments, des petites particules colorées. Ben, ces petites particules colorées, il suffit que je mette en même temps des particules blanches et des particules noires dans une bille remplie de liquide et que ces particules blanches et noires, je leur mette dessus une charge électrique. Ce qui fait que si je mets une tension d'un côté, ben ça va attirer par exemple les noirs. Si je mets une autre tension, ça va attirer les blancs. Et repousser les blancs dans ce cas-là, repousser les noirs dans ce cas-là. Donc si je suis au-dessus, avec cette tension-là, moi je vois les blancs. Avec cette tension-là, moi je vois les noirs. Et on peut faire comme ça, tourner les pigments, tourner la couleur, je vais voir quand je suis par-dessus, en appliquant une tension en un point, une autre tension à un autre, une autre tension à un autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle le papier électronique. Et ça permet de faire des écrans qui vont être des écrans très intéressants pour certaines choses, qui vont permettre d'afficher du texte noir et blanc. Alors, est-ce que vous serez prêt à remplacer votre livre, j'ai oublié de le sortir, par un livre qui serait ça, donc un e-book, donc quelque chose qui serait un papier électronique. Vous pouvez le regarder tout à l'heure ou je vous fais passer si vous voulez, puis vous me le rendez. Voilà. Mais ça, c'est une vraie question. Est-ce que vous êtes prêt à acheter quelque chose qui coûte à l'heure actuelle 200 euros pour voir que des textes qui ne bougent pas, parce que c'est lent, mais qui ne consomment pas. Par contre, ça peut être utile pour afficher, dans les supermarchés, les prix, ou pour faire des grands panneaux flexibles. C'est quelque chose où j'arrive enfin aux écrans qui vont pouvoir être souples, flexibles et déformables. Un des intérêts principaux de cette technologie-là, c'est qu'une fois que j'ai fait tourner les billes, elles sont dans une position, elles ne bougent plus. C'est-à-dire que l'image qui s'affiche sur l'écran là, tant que vous ne changez pas d'image, ça ne consomme pas, comme du papier. Tant que je n'imprime pas, le papier, je le pose, il ne consomme aucune énergie. Ça peut rester des semaines sans consommer rien. Ça ne consomme que quand vous changez d'état. L'inconvénient, je vous l'ai dit, principalement, il est là. Il y en a deux. C'est monochrome, noir et blanc. Ça peut être gênant. Deuxièmement, c'est très lent à changer de page. Si vous regardez changer une page, si vous passez le doigt dessus, la page change. Ça met pratiquement une demi-seconde pour changer une page à quatre. Donc, vous ne ferez jamais de vidéo avec ça. Vous ne ferez que du texte en lecture. Est-ce que l'iPad... L'avantage principal, c'est l'énergie. Hein. Un iPad, on peut lire des textes, ça marche très bien. Au bout de 48 heures, il est déchargé. Lui, avec la même batterie, il me faut un mois pour le décharger, en lisant 5-6 heures par jour. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est une techno qui peut être intéressante. Alors, juste pour vous montrer l'intérêt que ça peut avoir, une petite démo faite par un fabricant qui est un Anglais, Plastic Logic, qui est à Cambridge, sur... S'il vous plaît. Avec ça, je peux faire des écrans qui sont flexibles. Donc voilà, il vous dit, bah, l'écran, il est très bien, il est très fin. Alors, il n'insiste pas trop sur l'électronique qui est tout autour, qu'on a vu. Il dit, deuxième chose, c'est intéressant parce qu'il est robuste. Alors, je vais vous laisser voir comment il teste la robustesse. Donc, il tape dessus avec sa chaussure. Donc, l'écran continue à fonctionner. Alors, bien sûr, il tape que sur l'écran. L'écran en papier électronique. Il ne tape pas sur l'électronique et tout autour, parce que si vous tapez dessus, vous la détruisez. Donc il fait bien sûr le même test sur un ordinateur. Vous ne faites pas ça sur le mien, s'il vous plaît, parce que ça va le détruire. Il tape dessus et... Alors ça ne peut pas bien voir, mais on devine là, on voit un peu... On voit, regardez, l'écran s'est cassé et on voit la partie où le cristaux liquide a commencé à couler et à diffuser. Et dernière chose, il dit qu'il est très fin. C'est une pub. Hein. Alors, très léger, excusez-moi. Il dit, voilà, il compare à un journal et il compare avec l'écran, mais il a enlevé toute l'électronique qui est autour. Par contre, regardez bien une chose. L'écran, il est débranché, il est connecté à rien. L'image, elle est toujours là. Elle reste infiniment. Alors, infiniment, c'est quelques mois. Mais même si j'allume pas, si je ne mets pas d'électronique autour, l'écran va rester allumé. Donc ça, c'est un des intérêts de ces objets-là. Et c'est l'intérêt des e-books, là, dans celui qui est là. Oui. Alors, tu ne peux pas écrire dessus. Par contre, le papier, on pourrait écrire dessus avec des systèmes, il y a des stylos là-dessus, on pourrait le faire. Mais c'est... Non, c'est du plastique, c'est un autre matériau. Ça se comporte comme du papier, mais ce n'est pas du papier. C'est un dit papier électronique. Je suis d'accord avec toi, ce n'est pas du papier. Alors, s'il vous plaît, après avoir vu un peu ce bestiaire d'écran, ces types d'écrans qu'on peut avoir, l'idée, c'est de voir un peu maintenant qu'est-ce qu'on va essayer de vous proposer sur les écrans du futur? Sur quoi nous, on essaye de travailler au niveau de la recherche et pourquoi on veut faire des écrans différents par rapport à ceux que vous avez? Alors, l'idée, c'est de faire des écrans qui ont des formes différentes. Premièrement, ce qu'on appelle des écrans conformables. C'est-à-dire qu'on peut modifier la forme. Les écrans que vous avez tous sur vous, que vous connaissez tous, ils sont plans, plats, et c'est un rectangle. Il n'y a pratiquement pas d'autres types d'écrans à l'heure actuelle, en tout cas commercialisés. Premier type d'écran sur lequel on travaille, c'est faire des écrans qui sont des formes différentes. Rondes, triangulaires, et aussi non planes. L'intérêt, il peut être à deux endroits. Ça, c'était un projet sur lequel on a travaillé avec Nokia, c'est de vous faire des téléphones qui peuvent être des bracelets, qui peuvent être des téléphones avec des formes rondes, plus douces, plus jolies, plus faciles. Et ça, pour les designers, ça les intéresserait énormément. Ça existe ? Non, ça existe. Oui, mais sur ton téléphone montre, l'écran, actuellement, il est plan. C'est-à-dire que ton téléphone, là, il épouserait la forme de ton bras, il serait beaucoup plus grand. Là, sur ta montre, l'écran, c'est un carré plat qu'on a posé dessus. Donc ça permettrait d'aller plus loin dans le design et dans l'utilisation. Autre chose aussi, ça serait de faire quelque chose qui ait des formes comme ça, parce que votre œil, il a une vision qui n'est pas plane. Votre œil, vous voyez les distances en fonction d'une espèce de vision de sphère. Donc ça, c'est la première approche. Deuxième chose, pour les écrans conformables, ça intéresse très fortement, par exemple, les constructeurs automobiles. L'idée, c'est de mettre des écrans qui ont des formes différentes ou en plastique dans les voitures. S'il vous plaît. Ça pourrait être faire des écrans mieux intégrés dans les dossiers du conducteur, des écrans qui seraient transparents, qu'on poserait sur le pare-brise pour vous indiquer des informations complémentaires, le GPS qui vous guiderait. Là, il vous dit qu'il y a un animal devant qui a été détecté par une caméra infrarouge et qu'il faut faire gaffe de ne pas rentrer dedans. Des choses comme ça. Donc ça, c'était des projets de BMW. Pour le moment, on n'en est vraiment pas là. Après, on peut faire des écrans, on va plus loin, qui sont des écrans flexibles. Alors ça, c'est des produits qui, celui-là devrait être en vente au mois de juin en Italie. Alors pourquoi ? Parce que les Italiens sont plus technophiles que les Français et ils sont prêts à acheter des appareils qui ne sont pas encore tout à fait au point, mais qui fonctionnent. L'idée, c'est de faire des écrans comme le e-paper, là, le papier que je vous fais passer, mais qui puissent se déplier. Donc vous avez votre téléphone, comme ça, qui est plié, et puis vous voulez lire un texte important, c'est ce qui se passe ici. L'écran, je le déplie, je déroule mon écran et je peux lire mon texte. Alors ça peut être un texte, un mail, une carte GPS quand vous êtes en train de vous promener ou autre, ou des choses comme ça. Alors ce produit-là, je l'ai vu, il existe, il fonctionne, je vous dis, il va être en vente normalement en juin 2011. Celui-là, je ne suis pas sûr qu'il soit mis en vente à l'heure actuelle parce qu'ils ont des problèmes au niveau technologique. Ça serait d'aller plus loin, c'est de faire carrément un écran que je déroule complètement en couleur permettant de faire de la vidéo. Ça, à l'heure actuelle, on sait faire des démonstrateurs qui ont une durée, qui sont plus petits, qui font 5 cm et qui ont une durée de vie de 1 jour, 2 jours, pas plus. Donc on n'en est pas encore là. Après, on peut aller encore plus loin. Ça, c'est du design. C'est de faire des écrans pliables. Alors, ce qu'on appelle des origamis, donc on plie, c'est-à-dire votre écran, ça, technologiquement, ça pose des difficultés parce qu'à la pliure, l'électronique ne va pas aimer, mais votre téléphone, vous dépliez l'écran quand vous êtes en train de le regarder. Ça peut être pour un téléphone, ça pourrait être pour un lecteur DVD ou de vidéo quelconque, ou ça carrément une feuille que je plie, que je déplie, qui est mon téléphone en fonction des applications. Ça, on sait faire des choses qui ressemblent à ça. Alors, pour le moment, la grosse difficulté, c'est à l'endroit où je fais la pliure, on casse l'électronique et elle se plie mal. C'est plus facile de rouler quelque chose, ça fait un angle de torsion continu, que de faire quelque chose que je vais plier en tant que tel. Alors, je continue sur mon vestiaire. Après, on peut travailler sur des écrans. Ça, c'est Philips. travaille très fortement sur mettre des écrans ou des lumières, mais c'est un peu pareil, sur des vêtements. Alors, les premiers qui ont été intéressés à ça, c'est les militaires. Voir un soldat qui est partout un écran sur lequel il puisse voir où est le type qui doit buter en face, ou etc. Ça, ça les intéresse fortement. Mais, par exemple, une entreprise comme Philips. Philips, à l'origine, c'est une entreprise qui faisait des lampes. À l'origine, Philips ne faisait que des lampes. Nokia, c'était une scierie, hein, à l'origine. Ça s'est un peu développé depuis. Mais... Et Philips vend, ça c'est des vêtements que vous pouvez acheter. Ça coûte 1000 euros pièce. Mais c'est des démonstrations, mais c'est des écrans qui vont changer de couleur, de forme affichée en fonction de critères. Ça peut être la lumière du soleil, ça peut être votre humeur détectée par des capteurs, ça peut être des choses comme ça. Alors c'est un gros défaut ces vêtements-là. On sait faire ce qu'on appelle de l'électronique sur vêtements. Mais elle résiste pas à l'eau. Donc c'est des vêtements qui ne sont pas lavables. Ce qui est pour des vêtements, vous en conviendrez, relativement gênant. Surtout à 1000 euros la veste ou le t-shirt, ça a un petit peu casse-gueule. Mais bon, ça se fait, ça se développe, ça c'est des robes de mariée. Bon, une robe de mariée, vous n'avez peut-être pas trop la laver souvent. Et ça, c'était une démonstration qu'on a vue à un congrès au Japon en décembre cette année de structures. Donc les photos sont pas, mais de structures qui s'illuminent en fonction de la lumière, en fonction de contraintes contrôlées, et on peut faire passer des images dessus en fonction de vos intérêts. Alors toujours sur les écrans, autre chose qui se développe énormément, c'est la 3D. La 3D, alors je reviens à Minority Report, où on revoit, là il voit son gamin sur un écran qui est dématérialisé en 3D. Pour le moment, ça, on ne sait pas vraiment le faire. Ce qu'on sait faire, c'est en fait de faire une 3D fictive. Comment marche la 3D chez nous? Elle marche par le fait qu'on a deux capteurs, le gauche et le droit, qui sont un peu décalés l'un de l'autre. Donc quand je vois l'un d'entre vous, je ne le vois pas avec le même angle, avec mon œil gauche qu'avec mon œil droit. Cette petite différence me permet d'estimer la profondeur, d'estimer les distances. Donc quand on fait de la 3D sur les télés, qu'est-ce qu'on fait? On vous envoie une image pour l'œil gauche, puis une image pour l'œil droit, puis une image pour l'œil gauche, puis une image pour l'œil droit. C'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça qu'on recrée une impression de distance, de volume. Alors, pour faire ça, actuellement, on est obligé d'utiliser des lunettes. On sait faire très difficilement des écrans 3D sans lunettes. J'en ai testé. En fait, on a au fond de l'écran une espèce de pointe en fuyant qui va émettre d'un côté puis de l'autre. Alors ça marche très bien, mais si vous êtes dans un fauteuil fixe avec quelque chose qui vous tient la tête et que votre tête ne bouge pas, si votre tête bouge de 5 cm comme ça, vous voyez les deux images décalées et vous êtes vite malade. Donc d'un point de vue commercial, pas possible. On ne peut pas faire une télé avec un système qui vous tient la tête par personne dans une famille. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vous met des lunettes. C'est ce qu'on est en train d'essayer de vous vendre le plus fortement. Des lunettes qui vont vous cacher un œil. Par exemple, l'œil gauche quand j'envoie l'image pour l'œil droit, puis l'œil droit quand j'envoie l'image pour l'œil gauche. Et comme ça, vous allez voir cette image-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, à toute vitesse, suffisamment rapidement, pour que vous ayez l'impression d'avoir une image continue du mouvement, et vous allez voir comme ça le relief. C'est ce qui se passe, c'est ce que vous avez sur les télés 3D qu'on vous vend, c'est ce que vous avez vu peut-être pour Avatar ou des films comme ça qui ont suivi derrière, c'est ces principes-là d'image qu'on peut créer. Alors on peut aller un peu plus loin avec ce qu'on appelle l'holographie. Alors je ne vais pas m'apesantir sur comment fonctionne l'holographie, l'idée c'est quoi? C'est de recréer, en fait, de stocker. Vous envoyez une image sur un objet 3D, cette image est réfléchie par l'objet, et vous stockez toutes les réflexions possibles. On peut recréer, on commence à être capable de recréer, un peu là comme Obi-Wan Kenobi avec des deux R2 dans la Guerre des Étoiles. Là, vous avez un écran, c'est flou, mais c'est un écran de Windows, d'un PC, qui est complètement en l'air, dématérialisé, et qui est en 3D, recréé par holographie. Hein? Alors, ce n'est pas tactile, c'est la position du doigt qu'on détecte. Alors, un hologramme, vous connaissez peut-être, c'est ce qu'on a sur les... C'est le truc qui est sur les cartes bleues, qui permet de faire une forme 3D sur la carte bleue. Alors, juste encore, une chose sur laquelle on travaille, c'est la vidéoprojection. On sait faire maintenant des vidéoprojecteurs, alors qu'ils ne sont pas certainement aussi lumineux que ceux que vous avez là, mais qui sont capables, par exemple, dans le noir, de faire un écran d'1,50 m. La taille du vidéoprojecteur, c'est, si je ne mets pas la batterie, un demi-paquet de cigarettes. Même pas. C'est 2 cm sur 1 cm sur à peu près 1,5 cm. Donc avec ça, on fait de la vidéoprojection. On pourrait afficher un jeu, on pourrait afficher un truc, et on pourrait même l'intégrer dans un téléphone. Par exemple, vous voulez afficher, je sais pas, une vidéo qui vous plaît, bah vous prenez votre téléphone portable, vous mettez ça sur le dos, votre copain, copine, et hop, vous affichez l'image sur son dos et vous la voyez très bien. Alors, le gros bug qu'il y a à l'heure actuelle, c'est que ça viderait votre batterie de téléphone en 5 à 10 minutes. Ça, c'est la difficulté. J'ai un petit vidéoprojecteur, mais je ne l'ai pas amené là, qui fait 2 paquets de cigarettes. 90% de la taille, c'est une batterie. Et au bout de 45 minutes, il est mort. La batterie est vidée. Mais ça, ça peut être... C'est quelque chose qui se développe énormément, des tout petits vidéoprojecteurs. Dernier encore aussi, les micro-écrans. Alors, deux applications, deux approches possibles. Un, refaire le coup du... que vous n'avez pas connu, du Walkman. C'est-à-dire, avant les lecteurs MP3, le bon vieux système de cassette, en gros, avoir de la musique portative qu'on emmène avec soi. Là, l'idée... Oui, mais c'est le MP3 que vous avez. Walkman, ça a été d'arrêter de produire il y a 5 ans. C'est de faire la même chose en vidéo. De faire des lunettes vidéo que vous mettez sur vos yeux, comme ça, et vous regardez un film en étant complètement immergé dans le film en 3D avec deux écrans microscopiques. Là, vous avez un écran qui est ici. Cet écran-là, il est plus petit qu'une pièce de 10 centimes.